J'aimerais partager ce soir une réflexion sur l'exercice de la méditation, entre autres la pleine conscience. J'ai beaucoup de gratitude pour le Bouddha. Je n'enseigne pas vraiment le bouddhisme, mais j'enseigne la libération, je me l'enseigne à moi-même. Et j'ai beaucoup de gratitude pour le chemin qu'il propose, parce que c'est un chemin qui permet d'aller à la découverte non seulement du qui suis-je personnel, mais aussi de cette conscience universelle à laquelle nous appartenons tous, de ce qui était là avant notre naissance, qui sera là après notre mort, et qui peut être perçu concrètement sans avoir la foi. D'une certaine manière, la conscience, nous ne pouvons pas la saisir. Ça n'est pas quelque chose que nous pouvons nous approprier. Elle n'est pas à nous. Mais c'est une compétence que nous pouvons ouvrir, cet espace de réceptivité. Et il y a en même temps ce chemin immédiat. Nous ne pouvons être là que maintenant. Et il n'y a que nous qui pouvons être là. C'est une conscience personnelle. Et c'est aussi un chemin progressif. C'est-à-dire que au début, c'est pas très très clair exactement qu'est-ce que c'est cette conscience. Je me souviens dans une retraite. Je trouvais que la conscience était des fois comme ci, des fois comme ça, parce qu'il y a une forme, nous confondons l'expérience avec l'espace réceptif. Et peu à peu, ça devient plus clair. Et nous sentons mieux comment le corps et l'esprit est lié au sens. Et la conscience peut recevoir tout cet aspect sensoriel. Et lorsque le Bouddha parle des sens, il n'y en a pas seulement cinq. Il parle d'un sixième sens qui est l'esprit. Parce que les sens, c'est ce que la conscience peut recevoir. Et la conscience peut recevoir aussi l'esprit. L'esprit précède les choses, la conscience. La conscience précède les choses. Je ne comprenais pas très bien ça pendant longtemps. Là, quand j'ai eu cette opération, ils m'ont fait un truc vraiment génial. Génial et horrible. Ils m'ont mis des cathéters dans les nerfs, si bien que mon bras était complètement endormi, comme quand on va chez le dentiste. Et alors c'était dingue parce que quand il s'est réveillé, j'ai vraiment vu comment la conscience précède les sens. Tout d'un coup, je savais que j'avais un bras. Mais si je le touchais, c'était la même chose si je touchais là ou là. Exactement pareil. Je ne pouvais pas bouger du tout. Mais il y avait comme une sorte de passage d'énergie, comme des électrons, des gouttes qui partaient dans le bras. Et ce qui était dingue, c'est que la conscience personnelle volontaire, quand elle touchait là, ça stimulait la conscience involontaire. Ça stimulait cette première manifestation de conscience dans le bras. Et si je touchais là, les électrons étaient comme, ou l'énergie était comme vivifiée par la conscience personnelle. C'était absolument dingue. Parce que, enfin, je comprenais vraiment comment l'esprit précède la vie, l'expérience, la vie incarnée. Donc, la pleine conscience, c'est quelque chose qui est le point de départ du chemin que le Bouddha propose. C'est ce que nous pouvons installer maintenant. C'est la clé. Et c'est pas très difficile de mettre la clé de contact. Juste maintenant, si je vous dis, est-ce que vous êtes là, vous y êtes. Tout le monde y est. Ce qui est plus difficile, c'est d'y rester. Et d'y rester, quelle que soit l'expérience. Il y a des expériences qui nous submergent et nous ne pouvons pas possiblement être dans cette simplicité de présence au corps. Il y a ce phénomène d'appropriation qui nous fait oublier que nous sommes bien plus que l'expérience. Thich Nhat Hanh qui dit le souvenir, c'est la lumière, l'oubli, c'est les ténèbres. Et tout à coup, nous sommes dans les ténèbres. Et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons parfaitement être dans les ténèbres avec une expérience très, très agréable. Nous oublions totalement d'être là. Et la pleine conscience, c'est surtout l'outil avec lequel nous travaillons lorsque nous entrons dans ce chemin intérieur. Ça n'est pas le seul. La concentration est indispensable, comme nous avons vu ce matin. Mais c'est le point essentiel qui permet à la sagesse de se développer et à la libération de s'actualiser dans le corps. Au lieu que nos cellules soient colorées par tout notre système de protection, tous nos schémas de survie, peu à peu, ces schémas lâchent. Et ce qui reste, c'est pas grand-chose. Quelque chose de tellement simple. Quand on a demandé au Bouddha ce qu'il avait découvert dans ce chemin, il a dit, bon, je rien n'est pas quoi, quelque chose de spécial. Mais je sais ce que j'ai lâché. J'ai lâché l'inquiétude, j'ai lâché l'avidité, j'ai lâché la colère, la réactivité. Et que toutes ces protections lâchent, ce qui reste, c'est le nirvana. Le nirvana n'est pas quelque chose de spécial, c'est juste la fin de l'agrippement. Nirvana, la fin de l'agrippement. La fin de cette croyance au fond que je suis Anne-Michel. J'emploie Anne-Michel, c'est différent. Mais nous sommes bien plus que cette conscience individuelle. Et la pleine conscience, c'est donc ce point culminant où l'instant est toujours assez. L'instant est toujours utilisé pour grandir. Le Bouddha a parlé de 4 fondements qui permettent la libération, 4 aspects de la personne qui demandent à être rencontrés, connus pour pouvoir être lâchés et expérimenter la délivrance. Et le premier fondement, c'est le corps. Et le Bouddha parle en long, en large et en travers du corps. Ça ferait l'objet d'un enseignement en soi. Les parties du corps, la respiration, les actes quotidiens dans le corps, l'eau, le feu, le vent, la terre, hein, tous les éléments dans le corps. Tout ça pour que nous explorions ce corps et que nous lâchions cette impression qu'il est nous, à nous, que c'est nous. Et que ça devienne plus un outil que nous l'employons plus comme outil que comme propriétaire, disons. Parce que nous allons devoir lâcher le corps. Donc si nous en sommes propriétaires, nous allons souffrir beaucoup. Le premier fondement, le corps. Le deuxième fondement, la sensibilité. C'est un aspect de la personne qui est très important. Nous sommes des êtres sensibles et quand nous ressentons le corps, quelquefois il est agréable, quelquefois il est désagréable, quelquefois c'est neutre. L'exercice que nous avons fait tout à l'heure est très bienfaisant parce que c'est une exploration juste de ce premier et de ce deuxième fondement. C'est-à-dire que nous le contemplons, nous le constatons avec bienveillance, sans s'approprier. Ça émerge, il y a ça agréable, ça agréable ou désagréable. Et bien sûr, dans une retraite, la sensibilité devient très fine. Nous pouvons autant expérimenter des merveilles de notre vécu que des plongées. Nous pouvons nous sentir très à l'étroit, perdus. Et puis tout à coup, très ouvert, très unifié. Dans ce sentiment d'appartenance. Le troisième fondement, le Bouddha parle de citta. C'est au fond tout ce qui fait que nous pouvons expérimenter l'instant. Et pour expérimenter l'instant, il faut qu'il y ait une conscience. Il faut qu'il y ait un monde extérieur qui puisse créer un contact. Vous pouvez le faire maintenant. Le contact, c'est via votre corps, mais il y a aussi ce que je vous dis. Vous entendez des paroles. Certaines font sens. D'autres sont peut-être plus obscures. Et ce contact avec ce que je vous partage crée en vous des ressentis. Certaines paroles peuvent être agréables, d'autres confuses, un peu désagréables, mais où est-ce qu'elle va ? Créer du doute peut-être. Et des représentations, et ça va ensemble, ressentis et représentations. Des représentations qui sont subjectives pour chacun d'entre vous, en lien avec votre vécu du passé. Là, quand je travaillais avec Christiane dans le dialogue conscient, c'était intéressant parce qu'à un moment donné, il y a une moto qui est passée, puis je travaillais toute seule, c'est quand on travaillait tout seul. Puis j'ai dit « son désagréable ». Puis après, je me suis dit « mais c'est pas le son qui est désagréable, c'est la représentation, c'est la moto qui est désagréable ». Mais le son était assez doux. Nous explorons ce citta. Comment ça se passe, non pas tellement en moi, mais dans la nature humaine qui est en moi. Et bien sûr, dans citta, il y a toutes ces créations, toutes ces fabrications, ce processus de fabrication mentale qui est exceptionnel, mais qui peut aussi nous mener en enfer. Et c'est dans l'esprit que se trouve notre sagesse, qui est déjà totalement performante, mais qui n'est pas encore totalement dévoilée. Et l'exercice de la méditation est là pour que la sagesse se dévoile. Et plus nous ouvrons la conscience aux choses telles qu'elles sont, plus nous développons aussi la compassion et la bienveillance pour faire le plein dans le corps. Nous ne pouvons pas lâcher si nous ne nous sentons pas aimés. Plus les choses deviennent simples. Plus le corps peut simplement prendre sa place, moins il y a de problèmes, d'enjeux, de comparaisons. L'aveuglement fait place à la sagesse. Je vais vous lire dans le texte. Que dit le Bouddha ? Il dit, moine ou bien méditant, voilà le chemin direct pour la purification des êtres, pour surmonter les pleurs et les lamentations, pour la disparition de la douleur physique et de la détresse mentale, pour la réalisation du chemin de vérité, du nirvana. Ce chemin direct, c'est la contemplation des quatre fondements de la présence. Quels sont ces quatre fondements? Ici et maintenant, le disciple contemple son corps comme un corps, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience « il y a un corps » est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Et pareil avec les ressentis, ici et maintenant, le disciple contemple ses ressentis comme des ressentis, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a des ressentis, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Et le troisième fondement, et vous pouvez le faire pendant que je vous parle, ici et maintenant, le disciple contemple son esprit comme un esprit, alerte, pleinement conscient, est présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a un esprit, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Et le quatrième fondement, ici et maintenant, le disciple contemple tous les phénomènes, le monde, tout ce qui arrive, comme des phénomènes, comme un monde. Alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a un monde, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Ce qui est bienfaisant dans cette contemplation objective, c'est que peu à peu, le moi se met à sa place. Il perd ce trop d'importance que nous lui donnons pour laisser émerger une énergie ouverte et on pourrait dire de lâcher prise. Et quand le Bouddha dit que c'est le chemin direct pour la purification des êtres, ça purifie la réactivité, ça purifie notre système de protection. Nous en avons peu à peu plus, ou en tout cas moins besoin. Ça surmonte les pleurs et les lamentations. En général, quand ça ne va pas, c'est la faute à quelqu'un. Et on n'est pas aidé dans ce monde parce que chaque fois on cherche un fautif. Il y a un problème, à qui la faute? Alors on se lamente, on pleure. C'est une manière de ne pas prendre notre responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un discernement pour voir les tenants et aboutissants, bien sûr. Mais c'est la faute à personne, c'est la faute à la vie, c'est la faute à Dukkha, c'est le chaos de l'aveuglement. La disparition de la douleur physique. On aimerait bien en méditation qu'il n'y ait plus de douleur physique. Comment le comprendre? Lorsque la conscience prédomine l'expérience, la douleur physique devient supportable. La douleur physique n'est pas agréable, mais elle devient... Il n'y a pas ce rajout très aigu qui la rend ou qui nous met dans la confusion, qui met l'esprit dans, qui lui fait perdre ses repères. C'est à explorer. Mais on a des exemples comme Ramana Maharishi qui avait un cancer terminal et qui n'avait pas de douleur, qui était en paix. Il y en a d'autres. Et chacun d'entre nous a quelques petits exemples d'un dépassement au niveau de la douleur physique. La détresse mentale, lorsque nous avons un refuge ailleurs que dans l'expérience, il n'y a plus de détresse mentale. Lorsque nous prenons refuge et que ce lien de verticalité avec l'infiniment grand nous nourrit, La détresse mentale est équilibrée. Elle ne disparaît pas forcément, mais elle est équilibrée. Nous ne sommes pas submergés. Et alors, il y a cette réalisation du chemin de vérité qui nous donne grandement confiance. Nous ne sommes pas dans l'urgence. Il y a la patience. Il y a la tranquillité parce que nous avons l'impression de tenir un fil rouge. Et tranquillement, nous marchons sur ce chemin, un pas après l'autre. Nous sommes donc ici pour développer encore et encore cet observateur et conscientiser de plus en plus l'objet de conscience. Qu'est-ce que nous observons? Et qu'est-ce qu'il est bon d'observer? Quel est le bon objet de conscience? Comment être présent et comment rester présent. Et je l'ai peut-être déjà dit, je le répète, qu'il y a ces deux qualités à développer. D'une part, nous commençons par des objets simples. Et nous pouvons rester avec des objets simples. Mais plus nous développons la conscience, plus nous pouvons accueillir des objets compliqués. La peur. Je peux accueillir la peur sans avoir peur. Ou la colère. Et le comment j'accueille est très important parce que ça n'est pas si simple d'accueillir l'instant avec équanimité et avec bienveillance. Donc la qualité se développe. Comment est-ce que j'observe l'instant? Et dans l'assise, lorsque ça part sans cesse, que nous nommons les obstacles, c'est très différent si nous restons avec « oulala, je suis agitée »,« oulala, je suis somnolente », ou bien si nous allons dans ce qu'on appelle le quatrième fondement, où ces outils spirituels sont développer et où nous pouvons les nommer. C'est tout autre chose si vous dites « Ah, là, juste maintenant, c'est l'obstacle de la somnolence. » Ou si je le prends personnellement, « Ouh là là, je ne devrais pas être somnolente, là, il y a le doute qui vient. » Et quand le doute vient, « Ah, ça, c'est l'obstacle du doute. » Vous sentez la différence? Quelque chose reconnaît, nomme, ressent. L'identification est moins puissante. De même si c'est stable. D'abord, pointer. Reconnaître, après s'ouvrir, explorer et après nommer d'une manière qui aide à être en paix. donc le comment nous observons est important et l'objet que nous observons l'est aussi. Tous ces concepts que je vous propose, ne les prenez pas pour des vérités, ce ne sont pas des vérités, ce sont des concepts qui deviennent vérités s'ils vous aident. Et souvent, nous sommes compliqués, nous essayons de bien comprendre, mais ce n'est pas forcément utile parce que il y a un lien très clair entre la pratique et les enseignements, les paroles du Bouddha. Et c'est parce que je pratique que je comprends, dans le sens que j'intègre ces paroles, et elles sont utiles pour autant que je les intègre, pour autant que toute ma vie en soit améliorée, que je puisse les mettre en pratique. Et elles ne se mettent pas en pratique intellectuellement. Au fond, ce qui se transforme, c'est vraiment, c'est comme si on acquérait une nouvelle spontanéité. Quelquefois, les gens disent « Oh là là, mais chez moi, j'arrive plus. » Oh, évidemment, c'est normal, c'est tout bon. Nous revenons en retraite pour approfondir, pour intégrer mieux, pour digérer mieux. Et de plus en plus, nous en voyons les fruits dans notre quotidien. Il y a toujours les conditions et le non-conditionné. Et tout ça fait partie de l'esprit, fait partie de Citta. En nous, nous avons tout, l'ignorance et la sagesse. Alors, en cultivant avec intérêt l'instant, nous nous rendons compte que ce qui est là est toujours ce dont nous avons besoin. Nous arrêtons de rêver d'avoir ce qui va nous rendre heureux. Nous arrêtons de croire que être en paix, c'est quelque chose de spécial. Être en paix, ça ne peut être que maintenant. Nous nous créons tellement de souffrances en étant toujours en train d'évaluer, en train de désirer. L'investigation, elle est importante parce qu'elle nous permet de lâcher. Nous pouvons simplifier nos vies, nous vider de tout ce que nous rajoutons sans cesse. C'est Ajahn Sumedho qui dit « Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons changer notre regard sur le monde. » Et c'est bien notre pensée qui se transforme. Au lieu qu'elle soit tellement prioritaire, avec mes opinions, tellement importantes, peu à peu, ça lâche. J'étais de ceux... Un petit commentaire personnel. J'étais de ceux qui trouvaient que franchement, cette vaccination contre le Covid, c'est bon, quoi. Il faut se vacciner naturellement. On doit laisser un peu le système immunitaire se faire. Et puis ces vaccins, qu'est-ce que c'est, ces pharma, enfin bref. J'étais de ceux-là, sans être complotiste, mais il y a du discernement dans cette manière de voir. Et puis c'est très intéressant parce que je suis allée me faire vacciner parce que je vais aller enseigner en Angleterre. Puis je me suis dit, je fais quoi? Je demande à quelqu'un d'autre d'aller, mes valeurs. Ah, puis pour finir, je discute avec ceux-ci. C'est vraiment intéressant ce Covid à ce niveau-là. Et puis bon, pour finir, je suis allée me faire vacciner. Mais déjà, j'ai été un peu facile, hein, j'ai été un peu pénible. Oh, il était sympa. Parce que je suis venue, j'ai dit, est-ce que je le fais pas? Vous savez, je doute. Pour finir, j'ai dit, bon, bah, allez-y. Puis au moment où il venait, je lui ai dit, oh, mais je crois que je peux pas. Enfin bref, c'était compliqué. Et pour finir, je l'ai fait. Bon. Et puis, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'après, je me suis rendu compte à quel point, du fait que je l'avais fait le premier, j'ai fait le premier, mais le deuxième sera plus simple, je crois, du fait que j'avais fait le premier, tout d'un coup, toutes mes valeurs par rapport au fait de ne pas se faire vacciner, elles étaient toujours pareilles, mais que l'énergie qui les portait, avant l'énergie qui portait, c'était pas comme ça, mais c'était un petit peu comme ça quand même. Puis tout d'un coup, l'énergie qui portait ces valeurs, elle était comme ça. Et ça, c'était très intéressant de voir. Je trouve toujours que les pharma, franchement, elles exagèrent, qu'ils auraient pu faire un cadeau à la communauté plutôt que de faire 2000% de plus-value des actionnaires. Il y a quelque chose de franchement scandaleux. Je trouve toujours que c'est complètement scandaleux. Mais le comment je le trouve, il est vraiment complètement autre. Je trouve ça génial. Il y a moins d'enjeux, quoi. C'est bon, de toute façon. On est en 2021. Si on était en 2053, ce serait pas comme ça, hein? Ce serait comment? Ce serait comment? 2053, vous imaginez? Qu'est-ce qu'ils diraient les gens du Covid en 2021? Alors voilà, ça m'a donné beaucoup de... relativité. Puis ça m'a montré comment je tenais quand même assez fort à eux. Qui? Je vous lis une parole de Ajahn Sumedho. Ou bien Ajahn Sumedho, je crois. Beaucoup de souffrances et de malheurs viennent lorsque vous tenez pour vrai les pensées qui vous viennent en tête. Ce ne sont pas les situations qui rendent malheureux. Elles peuvent causer de la douleur physique, mais rien de plus. Ce sont vos pensées qui vous rendent malheureux, vos interprétations, les histoires que vous vous racontez. Les pensées que j'ai à présent me rendent malheureux ou rendent malheureux autrui. Cette prise de conscience rompt l'identification inconsciente à ces pensées. Peut-être pas malheureux, mais en tout cas tendu. Il y a des pensées qui nous rendent tendus et nous ne le voyons pas forcément parce que les attachements les plus profonds sont ceux que nous ne voyons pas. Donc, dans cette exploration de Chitta, de cet esprit qui contient le moi ordinaire, aveugle, et qui contient aussi la sagesse, nous développons un ancrage qui fait que nous sommes moins dupes, nous sommes moins aveuglés. Et nous commençons bien à comprendre que le moi est un concept, le moi est une construction. Mais l'expérience directe, elle est. C'est après que vient la pensée « c'est moi » ou « c'est toi » ou « c'est le Covid » ou je ne sais pas quoi. Ce qu'on appelle sati, la pleine conscience, c'est quelque chose qui nous protège. Lorsque je viens dans cette conscience, j'appelle la sagesse. Et c'est quelque chose qui illumine l'expérience. Et au fond, lorsque nous cherchons désespérément le bonheur, la seule chose que nous cherchons vraiment, c'est ça. C'est cette présence à l'instant, maintenant. Il n'y a pas d'autre bonheur. Tout le reste est... création. Donc, de manière différente, selon les traditions, selon les endroits sur cette planète, la nature humaine a cette compétence d'aller dans ce qui est au-delà. Au-delà de la vie, au-delà de la mort, au-delà de ce qui est impermanent et conditionné. Et Jésus, il le dit à sa manière, il dit « Je vous ai mis dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Ramakrishna dit « Seule votre présence toute nue est l'abondance inépuisable que vous cherchez désespérément. » Alors, je vais finir avec une parole. Ah ben, j'ai pas mis de qui. Mais je... C'est peut-être de Ajahn Tejaniya, peut-être. La présence sans effort et sans choix est notre véritable nature. Si nous pouvons l'atteindre ou y demeurer, c'est bon. Généralement, cela ne peut pas être atteint sans effort. L'effort de la méditation délibérée. Toutes les vieilles tendances mènent l'esprit au loin, elle tourne vers les objets extérieurs. Toutes ces pensées doivent être abandonnées et l'esprit doit se tourner à l'intérieur. Pour cela, l'effort est nécessaire pour la plupart des gens. C'est la nature de l'esprit de se balader. Vous n'êtes pas l'esprit. L'esprit, il monte, il descend, il s'exalte. Il se déprime, il est impermanent et transitoire, alors que votre sagesse est éternelle. Et même si cette sagesse, nous ne l'avons pas dévoilée, nous ne serions pas là si nous n'en avions pas une claire résonance. Je vous propose de rester un moment en silence.